Bonsoir et bienvenue sur Sin Eden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et des sexualités de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre. Nous partons ensemble en sexploration. Il y a quelques mois, j'ai réalisé un podcast sur le jeu de la soumission dans le milieu BDSM avec un homme. Désormais, le micro est à la femme, je dirais même plus à une dominatrice, à une domina qui s'appelle Dominatrice Oksana. Dominer peut être un métier. Elle domine des hommes qui se soumettent à ses pieds. Afin de pouvoir vous offrir ce podcast sans tabou, j'ai assisté à une de ses séances. Assise sur un sofa velours, Domina en action face à son client qui ne demande qu'une chose, être soumis. Ne vous fiez pas à la voix calme et douce de Domina Oksana. Derrière se cache une grande intelligence de sa pratique, une fermeté incollable et l'expérience d'une soumission intense. Quel type de client la contacte ? Quelles sont les demandes qu'elle rencontre, ou encore quelle place a la douleur dans le jeu de la soumission. Tout un tas de questions que je vous invite à découvrir dans ce nouveau podcast, tout de suite. Peux-tu te présenter rapidement, s'il te plaît ?
Bien sûr, donc mon pseudo à la fois de dominatrice, d'artiste et œil pour œil. Et mes soumis m'appellent Maîtresse Oksana.
Maîtresse Oksana, c'est quoi être une domina, une dominatrice ?
Alors une dominatrice, c'est une femme qui, dans le cadre du coup d'une relation BDSM, donc consentie et dont les termes ont été préétablis, se voit octroyer le pouvoir sur le corps, l'esprit d'une personne soumise. Et je dis bien octroyer puisque dans le cadre toujours du BDSM, c'est jamais la personne dominante qui prend le pouvoir, mais c'est bien la personne soumise qui pose ses limites et ses désirs et qui du coup met de la danse en quelque sorte.
Alors concrètement, en quoi consiste ton métier ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu y fais ? Quel est le bénéfice au client ? Quels sont tes bénéfices aussi, possiblement ?
Je suis dominatrice, moi, dans un cadre professionnel. Donc il s'agit pour moi de répondre à la demande de clients, de personnes qui ont en général des fantasmes ou des désirs déjà très précis en tête et qui viennent me voir pour les développer, pour les assouvir et qui sont en général en quête d'expérimentation, de créer une relation en général sur le long terme pour pouvoir laisser place à ce lâcher prise, à cet espace voilà, de vulnérabilité qui est nécessaire à ces jeux.
J'ai souvent entendu dire que les clients qui demandaient à être soumis étaient souvent des clients aisés. Est-ce le cas ou pas ? Et est-ce que tu peux nous donner un peu les profils types, entre guillemets, même si c'est vrai que ça... Là, je te demande de stéréotyper, de généraliser. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça.
Alors, c'est vrai que ce n'est pas aussi simple que ça, mais j'offre quand même un service de luxe qui demande donc forcément un certain investissement mensuel, puisque voilà, je fonctionne principalement avec des clients réguliers, avec qui j'ai une relation suivie pour certains depuis des années. Donc c'est vrai qu'on est souvent sur des clients quadragénaires, quinquagénaires, plutôt blancs, plutôt aisés, pas forcément bourgeois, mais qui en tout cas ont un capital assez élevé. Après, j'ai quand même quelques exceptions, des clients moins fidèles, enfin en tout cas moins qui ne sont pas là tous les mois, évidemment selon leurs revenus, et qui vont avoir des revenus beaucoup plus modestes et des jobs, je sais pas, je vais avoir des clients qui sont enseignants dans la petite école, qui sont dans la restauration. Et c'est vrai que le profil qui se retrouve, disons qu'il répond à des conditions économiques plutôt que des conditions sociales, parce que j'ai l'impression que ce besoin de soumission est quand même assez universel, en tout cas dans notre société occidentale et patriarcale, quoi. Mmh.
Quelles sont les demandes que tu as? Est-ce que tu peux me donner plusieurs exemples que l'on puisse un peu visualiser ce qui s'y passe?
Du coup, les demandes qui reviennent quand même le plus sont surtout axées autour de la sensualité, de plaisir érogène et de tout ce qui va relever de la contrainte, du contrôle. En fait, tout ce qui est un peu refusé dans une sexualité hétérosexuelle aux hommes, c'est-à-dire des pratiques comme celle du pegging, donc de la sodomie, du plaisir prostatique, du contrôle de l'orgasme. On va aussi beaucoup retrouver tout ce qui englobe des parties du corps qui ne sont en général pas sexualisées chez les hommes cis, donc les tétons. Et aussi toutes les pratiques qui permettent à mes clients de rentrer un peu dans cette perte de contrôle. Du coup, on va beaucoup retrouver les pratiques du bondage. Et aussi, une de mes pratiques favorites, qui est quand même beaucoup demandée, c'est la féminisation. La féminisation, c'est une pratique qui consiste pour un homme cis.
Un homme cis, rapidement, c'est un homme qui se reconnaît dans le sexe qui lui a été assigné à la naissance, tout simplement.
Alors du coup, c'est une pratique qui consiste pour un homme cis donc à adopter des attributs dits féminins. En séance, ça va consister tout simplement à ce qu'ils deviennent un peu mes petites poupées et que je les maquille, je prenne le temps de les coiffer, de les habiller et qu'ensuite on déroule une séance de BDSM un peu selon leur désir ou quoi. Mais c'est vrai que c'est une de mes pratiques favorites puisqu'à la base, c'était un peu ma limite quand j'ai commencé le BDSM et en tant que professionnelle puisque ça m'a paraissait être une pratique sexiste en fait, puisque dans ma tête c'était des hommes qui recherchaient l'humiliation et en fait en l'explorant avec des clients c'est devenu ma pratique favorite puisqu'en fait c'est un vrai cheminement un peu dans la séance et au quotidien et j'ai découvert de belles choses avec ces personnes-là en fait et des témoignages de personnes qui s'ouvrent à moi dans des moments de vulnérabilité et qui me partagent un peu leurs petits secrets et qui se voient parfois à 50 ans repenser à leur jeunesse et se dire que s'ils étaient dans notre génération, peut-être qu'ils auraient réfléchi autrement et qu'ils seraient peut-être pas restés dans leur cadre de vie et de fonctionnement masculin.
Toi, tu es dans quel état d'esprit dans le cadre d'une séance ?
Je suis principalement concentrée sur le bien-être et la sécurité, surtout, de mon client, en fait, puisque je pratique des actes qui, parfois, peuvent compromettre plus que le bien-être, en fait. On joue un peu sur le psychologique et sur des choses que les hommes, dans cette situation-là, ne sont pas forcément à même d'exprimer au moment où ils se sentent aborder leurs limites. Et donc, il s'agit pour moi de déceler les moindres petits gestes, respirations, tout ce qui pourrait trahir un peu leur incapacité à dire non et à stopper la séance.
Est-ce que tu peux me dire un peu quelle est la place de la sexualité dans tes séances ?
Alors, une relation de dominante à soumise se limite rarement, voire jamais en fait, des actes érogènes, en tout cas dans le cadre du BDSM, souvent... Les personnes qui me contactent recherchent une relation suivie qui permette en fait de laisser la place du coup un peu, je pense, dans la même démarche que ces personnes pourraient avoir avec un psychothérapeute. Ça leur laisse la place à la vulnérabilité, au lâcher prise, à tout ce qui peut leur permettre de se libérer du poids qu'a la société sur eux, de leur responsabilité, de leur masculinité et... C'est vrai que les motivations de mes clients restent quand même assez diverses. Il y en a qui sont simplement là pour les frissons, pour la nouveauté, pour se libérer un peu de leur vie monotone et franchement pas folichonne, quoi. Mais en général, on est surtout sur une volonté de parenthèse et de blackout un peu, quoi.
Justement, est-ce que tu peux me définir un peu ce qu'est le lâcher-prise pour toi ?
Pour moi, les personnes qui me... voient en sont la plus grande définition, en fait. Rencontrer une personne inconnue dans un lieu étranger et se mettre littéralement à nu, se laisser attacher et voilà, se livrer complètement corps et âme à une personne qui, d'autant plus, est en la possession de matériel potentiellement mortel entre les mains d'une personne qui, selon les clichés d'une dominatrice, serait potentiellement sadique. pour moi, ça relève d'un courage franchement admirable. Et donc, pour moi, oui, c'est la définition même du lâcher-prise, quoi, de pouvoir s'abandonner aussi facilement. C'est assez incroyable.
Il semble qu'il y ait un paradoxe avec toi, ou du moins avec ce que l'on imagine d'une domina. On imagine une domina avec un côté très ferme, une voix peut-être un peu portante, peut-être violente, méchante, je n'en sais rien. Toi, tu as une voix douce et j'ai pu te voir et j'ai eu la chance de te voir exercer. Dans cette fermeté, il y a quand même aussi cet aspect de bienveillance. Qu'est-ce que tu dis à toutes ces personnes qui ont encore ces clichés de la domina, des old school, quoi ?
J'ai l'impression que c'est une vision de la domina qui a tendance à évoluer avec notre génération. Et ce que je trouve vraiment positif, puisque moi je ne me retrouve absolument pas dans cette image de la domina froide et implacable et sadique, qui pour moi est une image qui a été créée par les hommes déjà. Si on peut refaire un petit historique de la domination, puisqu'on a dans les lettres BDSM, on a le bondage, domination et sadomasochisme. Et ces deux dernières lettres, on les tient de deux hommes qui ont un peu créé l'image du BDSM, donc le marquis de Sade et Léopold von Sacher-Masoch, qui sont deux écrivains qui ont du coup façonné l'image qu'on se fait aujourd'hui de la dominatrice. Et notamment le second, donc Léopold, qui a créé cette image-là de la dominatrice froide en fantasmant sur l'idée d'une femme puissante et non pas sur des femmes de pouvoir en elles-mêmes. Et c'est vrai que j'ai jamais vu un de mes clients venir me dire qu'il fantasmait sur Angela Merkel ou sur une femme puissante comme Serena Williams, Margaret Thatcher. Ça n'existe pas. Puisque, en fait, ce qui se retrouve souvent, c'est l'apparat de la dominatrice et moi c'est ce que je fuis en fait, puisque je n'ai pas envie de me limiter à un imaginaire alors que naturellement j'arrive à guider mes soumis dans une certaine vulnérabilité sans avoir besoin de me prêter à un jeu de jouer à la maîtresse ou à la policière, quoi.
Faut-il être créatif selon toi pour être domina?
Du coup, l'étant moi-même, je pense pouvoir dire que c'est avant tout une frustration plutôt qu'un atout, parce que malheureusement, même dans la domination, les désirs des hommes restent quand même très redondants, très basiques, voire ennuyeux souvent. Et comme je le disais plus tôt, c'est vrai que beaucoup de personnes sont plutôt à la recherche d'une sensualité hors des sentiers classiques de l'hétérosexualité, plus que de vrais soumis dévoués ou de purs masochistes. Donc c'est vrai que je m'inspire plus dans mon travail artistique des pratiques du BDSM que je ne laisse libre cours à mon imagination dans le BDSM. Mais il y a quand même certaines pratiques comme celle de la momification, etc., qui sont des pratiques très esthétiques. La momification, c'est une pratique qui relève du coup du bondage et qui consiste à immobiliser quelqu'un dans la position d'une momie, du coup. Donc les bras plaqués sur le torse et les membres inférieurs allongés dans différentes matières. Donc ça peut être dans du cellophane, qui est la matière que je préfère pour le bruit, la texture et l'aspect brillant qu'elle a. Et donc voilà, on va venir entourer le corps de cette matière-là. Et c'est une des pratiques du bondage qui est, à mon sens, les plus intéressantes, puisque contrairement aux chaînes, aux menottes et les barres d'écartement et ces autres outils-là, en fait, on est vraiment dans l'incapacité de bouger. On peut du coup venir avec cette pratique-là jouer avec la respiration ou avec le visage de la personne ou venir libérer différentes parties du corps, et c'est vraiment intéressant, quoi.
Est-ce qu'il y a des règles dans ce métier ? Tout à l'heure, tu parlais de la sécurité. Est-ce que tu peux me donner un peu les grandes règles de ta pratique, s'il y en a évidemment ?
La première du coup est celle du consentement. On établit dans toute relation, en tout cas dans un cadre professionnel pour ma part, des règles, des limites préétablies, voilà, de pratiques, des pratiques qui sont inaccessibles pour mes clients. Et à partir de là, on crée un contrat qui permet voilà, de poser un cadre à la relation. Et donc ça va être des règles pour le soumis, donc des devoirs envers sa maîtresse. Et à l'inverse, des devoirs de la maîtresse envers son soumis, donc des règles qui concernent principalement, comme je le disais plus tôt, sa sécurité, son bien-être psychologique comme physique lors des séances. Et donc ces règles-là, pour moi, elles sont très importantes puisqu'elles permettent aussi, dans le cadre de l'aftercare, donc c'est le moment en fin de séance qui permet de revenir à la réalité, en fait. C'est des règles qui rendent ces jeux possibles, en fait. Ce qui est très important pour moi, dans le cadre de mon métier, c'est de veiller à ce qu'il y ait une espèce de séparation, en fait, entre ce moment-là de vulnérabilité et un petit peu, si tu veux, de venir refermer la plaie que ça a pu ouvrir, en fait, avec ce moment-là où on prend le temps, où parfois les personnes pleurent, où il y a besoin de contact, d'un temps de flou, quoi.
Ok. Une question méga cliché, mais que tu vas déconstruire avec brio. Est-ce que tu détestes les hommes ?
Alors, je pense qu'il est impossible de faire un tel métier en détestant les hommes. En tout cas, ça me semble dangereux pour leur sécurité. Je mentirais si je disais que je ne ressentais pas parfois une forme de mépris pour les hommes, mais un mépris qui s'apparente plus à de la pitié qu'à de la haine, parce que c'est vrai que dans mon intimité, en tout cas dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle, je suis amenée à constater que les hommes ont eu, pour la plupart en tout cas, et j'ai jamais vraiment connu d'exception, sont dans l'incapacité de gérer leur vie sans avoir besoin du soutien inconditionnel de personnes qui sont encore capables de les supporter et de supporter leurs émotions. Et moi, dans le cadre de mon métier, je leur crée un peu ce cadre qui leur permet de retrouver cette vulnérabilité et cette humanité qui est refusée à la masculinité en général. Ça crée chez moi une sorte de tendresse, je pense, quand même, envers les hommes, plus que de la haine. Et pour moi, c'est aussi une manière un peu de régler mon compte aussi avec les hommes. Je pense pas en, évidemment pas comme une forme de vengeance, mais plutôt de me réconcilier avec justement cette haine qu'il y a eu et qui ressort parfois. Mais ouais, de me réconcilier avec ça simplement, puisque je peux créer ces moments qui sont un peu hors du temps et du monde, que c'est des gens que je rencontrerai nulle part ailleurs et avec qui j'aurai jamais la chance de pouvoir échanger comme je le fais. Et pour moi, c'est précieux tout simplement de laisser la place à des hommes, en plus qui sont des hommes de pouvoir souvent, de leur laisser la place à expérimenter autre chose que cette violence quotidienne qui s'impose, quoi.
Quel rôle a la douleur dans ton travail ?
Alors, c'est drôle parce que c'est souvent la première question que les gens me posent quand ils apprennent mon métier. Les gens qui sont en général en dehors du monde du BDSM, c'est qu'est-ce que ça fait de faire mal aux gens ? Sauf que, en fait, dans mon métier, je ne considère pas que je fais du mal aux gens. Tout simplement, puisque comme je le vois, en fait, je ne blesse personne, puisque s'il y a violence, c'est dans le cadre du consentement et de leur désir. Donc, il y a un plaisir qui est tiré de ces pratiques, c'est pas de la violence gratuite. Et du coup, c'est pas de la douleur sadique que je vais infliger dans mon travail, en fait. De mon côté, elle m'a évidemment mise face à moi-même quand même, puisque c'est vrai que c'est pas anodin que, par exemple, de fouetter quelqu'un jusqu'au sang ou de donner des coups à quelqu'un, de quelque sorte qu'il soit, c'est forcément particulier. Mais ça m'a permis de comprendre aussi mes besoins, ma colère, enfin quelque chose qui est souvent refusé aux femmes. La violence des femmes, ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout et qui permet pour moi d'extérioriser quelque chose, je pense. Ouais.
On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ?
Comme le disent souvent mes clients, que j'incarne un peu ce qu'ils ont toujours recherché et jamais trouvé dans ce stéréotype de la domina, c'est-à-dire que je sors de cette image froide, autoritaire et inaccessible, et que du coup je rends possible ce service qui est celui d'une dominatrice pour d'autres personnes que des gens qui sont déjà ancrés dans le BDSM et déjà ancrés dans cette idée d'être esclave et d'être soumis quotidiennement. Donc, n'hésitez pas.
Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les potentiels soumis qui souhaitent vivre cette expérience avec toi, ou alors tout simplement les gens qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux et connaître ton actualité?
Alors, je suis trouvable sur Instagram, @histoirederouge, tout attaché. Aussi sur Hello, qui est un site moins connu mais non censuré, dont mon pseudo est œil pour œil, et j'aurai bientôt un site.
Si vous souhaitez témoigner sur un sujet autour de la question du genre, des orientations ou pratiques sexuelles, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram @sinedensublimepodcast. Ou bien, si vous désirez prendre rendez-vous pour une consultation en sexothérapie ou alors participer à mes ateliers sexo, je vous invite à vous rendre sur mon site internet sinedensublime.com. Si évidemment vous appréciez ce podcast, montrez-moi votre soutien, que ce soit avec un like, un partage, un commentaire sur votre plateforme audio d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, YouTube ou bien même sur sinedensublime.com. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt.